Je mine des très petites crypto-monnaies à fort potentiel. Il sort un pataquès. Et moi, j'étais vraiment mal parce que j'avais vraiment pas voulu lui nuire. Bah oui. Et je m'étais fait harceler pour rien.
Moi, littéralement, des dramas, je m'en prends deux par mois. La personne qu'on a pris, elle est en prison maintenant.
Leur token, coin, ne sert à rien.
De base, toi, t'es chimiste, c'est ça? T'as beaucoup de notes chez toi, non? Qu'est-ce que tu reproches au proof of stake? Est-ce qu'on pourrait imaginer un bitcoin en proof of useful work?
Pour moi, c'est la plus grosse des narratives à l'heure actuelle. Toute ma vie, je me demanderais, et si je m'étais lancé, qu'est-ce que ça aurait donné?
La crypto la plus surcotée est...
Je vais me faire des ennemis. Salut à tous, c'est Monsieur Deka pour le Crypto Daily. C'est parti.
Let's go. Salut à tous, merci d'avoir cliqué. Donc vous êtes bien sur le Crypto Daily. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur TK. Vous le connaissez, c'était une des premières chaînes de minage en français sur YouTube, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, il est toujours un peu dans le minage, mais surtout dans tout ce qui va être les masternodes, etc. On va parler de plein de cryptos différentes. Kevin, comment tu vas?
Super bien, et toi?
Ça va, je peux t'appeler Kevin, il n'y a pas de problème.
Bien sûr, il n'y a aucun souci.
Les gens, ils t'appellent comment? Tiens, TK, Kevin?
TK maintenant. En fait, c'est très rare qu'on m'appelle par mon prénom maintenant. Okay. C'est vraiment devenu TK, mais les deux me conviennent.
Pourquoi TK?
TK, en fait, c'est tout simplement parce que quand j'ai dû créer un pseudo pour la chaîne YouTube, justement, en fait, on te dit il faut avoir un nom. Et j'avais aucune idée parce que à l'époque, voilà, c'était pas du tout. Je m'étais pas dit, tiens, je vais monter une chaîne YouTube. Donc, j'ai fait ça sur le côté.
Ouais, vite fait.
Et j'ai repris mon pseudo de jeu vidéo. Donc, c'est Monsieur TK pour TK pour Team Kill. Et donc, en fait, c'est de là que ça vient. Et alors, maintenant, TK, c'est souvent associé à la bière aussi, la triple carmélite. Et donc, c'est là. Le truc qui rime.
Aujourd'hui, t'es plus là-dessus.
Oh, voilà, mais toujours.
Si je dis pas de bêtises, de base, toi, t'es chimiste, c'est ça?
Ouais. Wow. Exactement. J'ai un master en chimie, donc c'est mon métier. J'ai travaillé pendant presque un peu plus de 11 ans dans une boîte de chimie. J'étais dans le département recherche. Et en fait, j'ai fait de la crypto-monnaie sur le côté. Et puis, j'en ai fait ma passion, mon métier. Et me voilà.
Bah, tu vas nous raconter justement, parce que je veux rentrer un peu plus dedans là, dans comment de chimiste on devient mineur. Vas-y, raconte-nous. Alors déjà, comment ça s'est... Donc t'es chimiste, t'es en Belgique, hein, t'as vécu toute ta vie en Belgique. Comment t'as découvert la crypto déjà?
Alors, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est comme beaucoup, j'en ai entendu parler bien avant. Donc j'en ai entendu parler en 2013, okay. Sauf qu'en 2013, je venais de me lancer justement dans mon travail de chimiste, j'étais en train de regarder pour louer des appartements, etc. etc.
Oui, c'était
clairement pas le moment de se dire, tiens, j'ai de l'argent entre guillemets à perdre, hein, je mets de gros guillemets, pour investir dans la crypto-monnaie. Donc là, je laisse passer cette opportunité, mais je connaissais déjà, j'avais déjà un peu compris comment ça fonctionnait, à quoi ça servait, etc. etc. Et par la suite, c'est réellement en 2016 que là, de nouveau, on parle encore une fois du Bitcoin. Le Bitcoin faisait les gros titres. Et je me dis, tiens, allez, cette fois-ci, j'y vais un peu plus, je creuse un peu. Et en fait, c'est comme beaucoup de personnes, hein, je suis tombé d'une certaine façon dans le terrier du lapin blanc de Bitcoin. Et en fait, j'ai commencé vraiment à creuser, à m'y intéresser. Ça m'a poussé de plus en plus à aller plus loin au niveau de mes recherches, découvrir tout l'écosystème, il n'y a pas que Bitcoin, etc. etc. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à avoir justement cette chaîne YouTube autour de ça pour vulgariser justement l'écosystème.
Aujourd'hui, toi, tu as une chaîne YouTube de à peu près 80 000 abonnés, tu as 100 000 abonnés sur Twitter, tu es présent sur Insta, TikTok, etc.
Oui, je suis présent.
Oui, tu fais tous les jours sur TikTok les 1 minute, récap en 1 minute, yes.
C'est clairement YouTube et Twitter, mes réseaux.
YouTube et Twitter, ouais. C'est même toi ceux que tu utilises le plus, oui, c'est le plus souvent. Est-ce que avant d'avoir des réseaux crypto, tu étais sur d'autres réseaux, peut-être, tu vois, tu me disais que ton gamer tag, c'était TK, Team Kill. Tu faisais quoi avant?
J'étais donc sur les forums, mais de jeux vidéo.
C'était quoi tes jeux?
À l'époque, je suis un grand fan de la série Battlefield. J'ai commencé au tout
non.
début.
Si, si. Oh non.
Pas Call of Duty, Counter-Strike aussi, 1.6. Counter, ouais. Okay. Counter tout ce qui était. Beaucoup les FPS, les jeux de stratégie, la série okay. Total War et tout ça.
Ah ouais, donc t'as vraiment t'as pensé. Ça, c'était avant que tu deviennes chimiste, pendant tes études,
ouais,
etc.
En fait, j'ai toujours été. Même encore à l'heure actuelle, je suis toujours un gamer. Je passe mon temps là-dessus. Enfin, je veux dire, quand j'ai du temps libre.
Tu te fais une petite game.
Et je suis bien content. Quoi.
Battlefield, j'ai jamais adhéré. C'est trop grand. C'est trop long.
C'est ce que j'aime, justement.
Ah, c'est ce que tu veux. Moi, je trouvais que. Enfin, tu sais, parfois, avant de tomber sur un mec, il peut se passer 3, 4 minutes, et là, juste tu te balades et tout.
Ah, t'as jamais joué à Arma, hein. Arma, c'est 30 minutes, 40 minutes, tu te prends une balle, t'es mort, tu recommences. C'est pire.
Non, j'ai jamais joué. Au moins, Call of, tu vois, c'est direct. Tu rush, rush B, merci, au revoir, hop, tu reviens.
Ouais, je vois, je vois.
T'avais lancé une chaîne YouTube à l'époque, déjà dans les jeux vidéo ou pas du tout? Allez.
Non, c'est pas que j'avais lancé. En fait, j'avais essayé comme beaucoup. Je m'étais dit, tiens, j'adore jouer aux jeux vidéo.
Tu dis, je vais streamer peut-être.
Je vais streamer. Et pour le coup, j'étais pas trop mauvais. J'étais pas très bon non plus, mais j'étais pas trop mauvais. Donc, je me dis, tiens, je vais essayer d'animer des lives. C'était notamment déjà à l'époque sur Twitch. Mais ben voilà, j'avais pas la fibre, ça prenait pas, il y avait pas de viewers ni rien, donc ça ça n'a jamais pris. Mais j'ai toujours aimé justement ce côté live, tourner
face caméra. T'as toujours été à l'aise face caméra.
J'ai toujours été à l'aise. Je ne me suis voilà, il y en a par exemple qui à juste titre, je comprends totalement, qui ne se montre pas par exemple face caméra.
Bien sûr.
Et moi depuis le début, je suis parti du principe.
Day One, tu voilà, t'es montré. T'étais docs quand même ou non? Enfin, donc on voyait ta tête, mais on connaissait ton nom, ton prénom.
On connaissait pas ça, mais si on cherchait un peu, on pouvait la retrouver. Voilà, c'était pas non plus hyper secret, quoi.
Ok. Tu sais que j'ai une anecdote avec toi.
Aïch.
Mais je crois que tu n'es pas au courant.
Aïch, c'est pire alors.
Il y a très longtemps, avant que vraiment je commence à être en crypto, même à faire du contenu, je bossais pour une boîte qui s'est dit, tiens, on va commencer à regarder le minage, etc. Et donc, de fil en aiguille, j'étais tombé sur ta chaîne, bien sûr. Et je t'avais envoyé un mail en mode « Salut, on est corpo, on aimerait faire du minage, installer une petite ferme au bureau, on a de l'électricité qui arrive, etc. C'est super. Est-ce que tu peux bosser avec nous ?» Et tu m'avais répondu, tu m'avais dit « Coucou, etc. » Mais bon, je pense que tu as vu beaucoup de demandes.
150, ouais.
Bien sûr. Et tu m'avais répondu. Et on n'était pas passé avec toi parce que je sais que je t'avais dit « Ok ». Tu m'as dit « Ouais, je viens de Belgique, c'est un peu compliqué, etc. » Nous, on était déjà sur Paris. Et donc, on avait pris quelqu'un d'autre. Spoiler, on aurait dû aller avec toi. La personne qu'on a pris, elle est en prison maintenant.
Ah, mais c'est embêtant. C'est plus embêtant.
Je sais pas si elle est encore. Il est encore en prison. Ouais, il est encore en prison, tu vois. Donc.
D'accord.
Mais le pauvre. Et bon, voilà, c'était la petite
anecdote.
La petite anecdote. On est en quelle année au moment où tu commences à lancer ta chaîne?
La chaîne 2018. En fait, donc en 2016.
C'est OG quand même, c'est old school.
C'est-à-dire que moi, je considère que non, parce que je connais ceux qui sont là de 2013-2014. Mais c'est vrai que quand tu dis. Moi, j'ai commencé en 2016 la crypto. Donc vraiment, en 2016, je me lançais ça. Et à l'époque, en fait,
Tu te lances comment?
Par le minage. Par le minage, en fait. Donc,
ok, tu mines en 2016. Quoi.
Directement. En fait, en 2016, je me dis, tiens, les crypto-monnaies, ça m'intéresse. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, c'est pas comme maintenant où ça paraît totalement évident et ça.
C'est
et
difficile d'en acheter, etc., peut-être.
C'est difficile d'en acheter. Et puis,
mauvaise réputation, déjà.
Très mauvaise réputation. Et tu te dis, ouais, et si ça s'effondre, et si ça tombe à zéro, et ça, et ça. Et accessoirement, j'ai pas, à ce moment-là, je
t'as pas un capital à mettre.
Voilà, j'ai pas de l'argent à perdre. Et donc, c'est là que je découvre, en fait, le minage, en voyant qu'avec une machine, donc un ordinateur, il y a moyen de miner de la crypto-monnaie. Et ça tombe bien parce que moi, j'ai
gratuitement.
Voilà, d'une certaine façon, tu l'as gratuit. Le PC, moi, je l'ai, parce que comme je suis gamer sur PC, j'ai une grosse bécane pour pouvoir essayer ça. Et donc, je me dis, bah, plutôt que d'acheter de la crypto-monnaie directement, je vais plutôt en miner. Et donc, je faisais tourner, en fait, quand je n'utilisais pas mon PC, je le faisais tourner donc, la nuit, la journée, quand j'étais au boulot, ça, pour miner de la crypto-monnaie. Et à l'époque, je minais une crypto que tout le monde, enfin, qui n'était pas super intéressante, bien, ça s'appelait Ethereum. Mais à l'époque, en 2016, Ethereum, c'était pas la folie comme on la connaît actuellement.
C'était pas ça. C'était un petit truc.
C'était un petit truc. Moi, Ethereum, au début, je m'étais dit, ouais, c'est pas possible, on peut pas générer du cash avec sa machine. C'est un scam, ça va finir à zéro, je vais être le dindon de la farce, quoi.
Okay.
Et maintenant, tu te dis, bah ouais, il fallait le voir, quoi.
Il fallait le voir. Et surtout, il fallait le tenir.
Il fallait le tenir et il fallait avoir confiance.
Combien il était, Ethereum, quand tu as commencé à le miner?
Ethereum, donc au tout début, je me rappelle quand j'ai. Ethereum, c'était aux alentours des $12 et Bitcoin 600, plus ou moins.
Donc Bitcoin, déjà, tu avais mis de côté Bitcoin en mode... Tu minais du Bitcoin ou tu t'es dit, non. Bon, c'est déjà trop cher?
Bitcoin, c'était déjà pas plus possible. On était déjà sur ASIC.
Ouais.
Donc moi, j'étais déjà, comme j'avais un PC, j'étais direct à la carte graphique.
Ouais. Ok. Et donc là, tu as carte graphique, Ethereum.
Carte graphique, Ethereum. Et puis quand je vois
la bonne époque d'Ethereum.
La bonne époque. Et je vois que ça fonctionne bien. Je vois que ça fonctionne même bien. Et alors au début, je me dis, tiens, je découvre à ce moment-là les rigs de minage, donc les installations de minage. Mais pareil, j'ai pas envie de trop mettre d'argent ni rien. Donc au début, j'avais fait un monstre, j'avais tout modifié, tout bidouillé mon PC pour pouvoir mettre plusieurs cartes et tout, ça ressemblait à rien. Mais c'était marchait. Les débuts. Ça marchait, c'était les débuts.
Tu avais déjà des connaissances pour monter, démonter un PC, etc. Tu savais le faire?
Ouais, je suis passionné d'informatique depuis que je suis tout petit. Donc c'est vrai que les PC, depuis que j'ai 12 ans, je les monte, je les démonte, je choisis mes composants et tout. Donc c'était évident pour moi que ce serait un côté facile, quoi.
C'est quoi ta première vidéo sur la chaîne? Genre là, maintenant, si je vais sur Monsieur TK, je prends la première vidéo.
La toute première vidéo.
Qui parle minage, quoi.
C'est sûr. Je crois que la deuxième, c'était un commentaire. Je commentais un reportage qui avait eu lieu sur France 2. La toute première, ça devait être sur. Donc, c'était sur le minage. Je me présentais en disant qui je suis et ce que je fais de ça. Mais je ne sais plus le sujet abordé. Je sais que dans les toutes premières, j'ai expliqué ce que c'était un pool de minage, comment miner, quelles étaient les bases et de ça, quelles cartes choisir à l'époque.
Ça a bien marché au début? Ou c'était un peu poussif?
Non,
tu faisais ça en mode je m'en fous, ça marche pas.
C'est clairement. Moi, j'ai jamais commencé YouTube en me disant tiens, je vais en faire un métier ou j'ai envie que ça marche. Je l'ai fait vraiment sur le côté en me disant bah tiens, en fait, c'était pour. arrêté de me répéter 150 fois sur les mêmes Discord, les mêmes forums pour expliquer la même chose. Je me suis dit, tiens, je vais le filmer, comme ça j'enverrai un lien aux gens. Et en fait, c'est de là que c'est venu, quoi. Et donc le but, c'était pas.
T'avances.
La crypto-monnaie, c'est une niche. Le minage, c'est la niche dans la niche, quoi. Donc c'est, si tu te dis, je vais me lancer sur une chaîne YouTube et je prends le minage pour faire des milliers d'abonnés et tout ça, t'as choisi le mauvais secteur.
C'est à quel moment que tu vois que la petite config que t'as réussi à faire chez toi, ça marche un petit peu? C'est à quel moment que tu dis, ok, maintenant je vais prendre de l'argent, je vais le mettre dedans et je vais miner?
Un peu avant 2017, vraiment fin 2016.
Donc rapidement, en moins d'un an quand même,
Moins d'un an, en fait, je commence déjà à regarder, je vois que ça fonctionne, et je vois qu'il y a moyen de passer donc, de la crypto vers euro. Donc déjà, je me dis, ok, c'est pas un truc virtuel qui ramène à rien. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, je vais investir du matos, parce que je m'étais même dit, dans le pire des cas, si ça marche pas, le matos, je le garderai pour moi. Sûr. Et donc, c'est là, donc très rapidement. Et puis, j'ai eu la chance que fin 2017, on a le premier bull run que moi j'ai connu, qui était le bull run de 2017. Et là, direct, je vois donc, le prix des crypto-monnaies qui s'emballe complètement. Et je me dis, waouh, ce que j'avais accumulé, les petites sommes que j'avais accumulées, ça peut très vite se transformer en sommes beaucoup plus importantes. Et pareil, racheter du matériel, continuer à évoluer, etc.
Aujourd'hui, tu mines toujours ?
Je mine, mais vraiment plus pour le plaisir que pour la pure rentabilité. Je fais ce qu'on appelle du spec mining. Ça veut dire que je mine des très petites crypto-monnaies à fort potentiel.
Comme le Caspa, par exemple.
Comme le Caspa, comme Alephium, comme Clore récemment. On se débrouille.
Donc, le spec mining, c'est quoi exactement?
Le spec mining, c'est le fait donc de miner vraiment une crypto-monnaie qui est quasiment inconnue, voire des fois qui n'est même pas listée sur un exchange. Donc, il n'y a pas moyen d'en acheter.
C'est vraiment une crypto...
Voilà. Et tu en mines, et alors comme tu fais partie des tout premiers, tu vas pouvoir en miner beaucoup très rapidement. Ça ne vaut peut-être rien ou quoi, mais tu peux très vite en accumuler. Et c'est comme ça que, comme on disait avec Caspa, à un moment donné, avec une petite config sur Caspa, tu pouvais sortir 30 000 Caspa par jour. Maintenant, si tu sors 30 Caspa par jour, tu es super content, quoi.
Oui, quand même, parce qu'il y a énormément de monde qui sont en train de miner, donc les récompenses, elles baissent. C'est que du proof of work.
Que du proof of work, ouais.
Ok. C'est quoi les petites cryptos comme ça que t'as spec mining et que ça a cartonné?
Caspa, clairement. Caspa, c'est un très bel exemple, parce que Caspa, on a commencé à miner, il n'avait même pas de prix.
Il n'y avait pas de prix, donc tu t'es dit prix, spec mining total. Hein. Toi, voilà. Tu t'es dit, oh, je mine un mois, deux mois, après c'est tant mieux, sinon tant pis, c'est ça?
Exactement, c'est ça. C'est purement un pari. Tu dis, okay. Si ça passe, tant mieux, il y a moyen de faire un peu d'argent. Et si ça passe pas, tu dis tant pis, je vais aller sur un autre.
Donc, combien de temps t'as miné Caspa?
Caspa, j'en ai miné pendant pratiquement 2 mois, à mon avis. Okay. 2 mois, parce qu'en fait...
Deux mois il y a longtemps ou 2 mois
De mémoire, c'était mi-juillet 2023, août 2023, parce qu'en fait, en septembre 2023, il y avait la sortie des premiers ASIC. Donc déjà, là, tu savais que ça allait c'était fini, quoi. Donc okay. Si tu voulais miner à la carte graphique, il fallait le faire avant.
Ok. Donc tu mines, c'est Caspa. T'as dû en choper, donc c'était du 30 000 par jour, que tu te disais.
Ouais, facile.
T'en as fait quoi? T'as vendu? T'as gardé? Comment?
J'ai vendu... là, maintenant, j'ai vendu la totalité, mais j'avais...
T'es sorti?
Ouais, en fait, j'avais vendu petit à petit sur la hausse.
C'est vrai que maintenant, tu connais, tu vas pas te faire avoir à tout vendre sur une première bougie.
Voilà, c'est ça. Et c'est aussi un peu le jeu du spec, quoi. En gros, si tu mines pendant un mois, c'est pour gagner 100 euros, tu dis, ça valait pas la peine, quoi. Le but, c'est d'aller justement chercher de gros multiplicateurs, si c'est possible, bien entendu.
Okay. Donc, tu revends tout, tu fais un très gros bénéfice. Je peux te demander combien, à peu près?
Un gros bénéfice.
plus qu'en dizaines de milliers?
Ouais.
Ok, magnifique. Et t'en as d'autres, des coins comme ça, j'imagine?
On a fait Alephium il n'y a pas longtemps. Alephium qui est pareil, passé, lui, je crois que quand on a commencé à en miner, on était à 15 centimes. Et là, au top, il a tapé 3 dollars. Là, il est à 2,50 dollars.
Pareil, t'as miné quelques mois. C'était quand?
J'en mine toujours, lui, par exemple, un petit peu.
J'en mine toujours. Okay,
Alephium,
toujours...
mais forcément, t'en fais beaucoup moins qu'avant. Donc là, c'est moins intéressant.
Ethereum, tu le mines plus?
Ethereum, c'est plus possible, non. Mais on me pose encore la question. J'ai encore des questions sur des YouTube où on me dit, écoute, j'essaie de lancer le minage Ether et ça fonctionne pas. C'est pas une blague.
Est-ce que t'aimes créer du contenu tous les jours? J'imagine si tu le fais depuis aussi longtemps.
Ouais,
c'est quoi qui te pousse à continuer?
J'aime bien parce qu'en fait, j'ai toujours un truc à raconter. En fait, des fois, c'est vrai que je me force un peu à trouver des sujets, vraiment, parce que j'essaye quand même d'avoir des sujets qui parlent de l'actualité, parce que c'est vraiment, si je voulais parler d'un sujet de fond, j'ai largement de quoi tenir une année complète. Maintenant, expliquer la différence entre les paiements PPLS et PPLS+, par exemple, dans le minage, à l'heure actuelle...
Je sais même pas ce que c'est.
En gros, quand tu es dans le minage, c'est super intéressant, mais sortir une vidéo là-dessus, à l'heure actuelle, ça va intéresser personne, donc ça veut dire pas de vues. Surtout, encore une fois, les vues, on s'en fout. C'est l'algo YouTube qui va se dire, oh, tiens, il fait une vidéo qui bide, ça n'est pas intéressant, etc. Donc, c'est un peu ça, en fait. Des sujets de vidéo, j'en ai des tonnes, mais des sujets de vidéo qui sont super intéressants à un instant T, c'est beaucoup plus difficile.
Il faut savoir timer son sujet.
Il faut savoir, voilà. Il y a des moments où, bah, par exemple, typiquement, quand c'était le top du top, le minage d'Ethereum, c'était le bon moment pour sortir des vidéos sur le minage Ether, comment
t'en sortais une, là, bingo.
Voilà, tu savais que ça allait être bingo. À l'heure actuelle, voilà, sortir des vidéos sur le minage, hormis sur des coins très spécifiques pour le spec mining, c'est beaucoup moins intéressant parce que tu ne peux plus vraiment faire un bon vieux minage de fond comme on le faisait avant, par exemple.
Okay. Effectivement, ouais, c'est, ça, tu vois, c'est des codes qu'on ne sait pas. YouTube exact. Ne te le dit pas vraiment comme ça. Tiens, un petit conseil pour un YouTuber qui commence. Trois conseils.
Il y a ce qu'on appelle les interactions fortes et faibles sur YouTube. Okay. Donc... peut-être que tu ne connais pas, donc je t'apprends ça. Donc, en gros, par exemple, quelqu'un qui met un like, c'est une interaction faible. Ça veut dire qu'un like ou même un dislike, c'est pareil. Pour l'algo, c'est pareil. En fait, un like ou un dislike, ce n'est pas compliqué. Ça demande un clic, les gens le font. Pour l'algorithme YouTube, ce sera, on va dire, un bon point. Un commentaire, un simple commentaire, même le gars qui te met juste « merci », c'est une interaction forte parce que ça veut dire que le gars a pris la peine de cliquer d'écrire, taper, même s'il a juste mis un mot. Et ça, par exemple, il vaut mieux avoir un commentaire, même d'un gars qui te dit « merci », que d'avoir 100 likes, tu vois, il y a vraiment cette interaction au niveau de l'algorithme. Et donc clairement, moi, c'est ce que je dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer sur YouTube, peu importe le sujet qu'il sélectionne.
Pousse les commentaires.
Pousse les commentaires et surtout réponds aux commentaires. Parce que si tu réponds aux commentaires,
et moi qui, enfin, là, okay.
Et si t'arrives à lancer un petit débat en commentaire ou autre, là, c'est bingo, parce que là, t'as une interaction forte qui se continue et l'algo, il se dit, tiens, les gens ils commentent, ils se répondent, etc.
Mais les gens ils débattent sur YouTube. Et ouais. Ça, il y a des débats encore.
Clairement, bah, il y a des débats, ça arrive. Après, ça dépend du le sujet que tu abordes. Mais moi, je l'ai eu. Récemment, j'ai sorti une vidéo justement sur les banques qui sont plutôt crypto-friendly et celles qui ne le sont pas. Et ben les gens disent, ah, moi, j'ai retiré là, ça a été. Là, j'ai essayé, ça n'a pas été. Là, okay, mon banquier m'a appelé. Donc c'est...
Ok, magnifique. Premier conseil.
Premier conseil.
Alors, attends, on va l'utiliser tout de suite, ce premier conseil.
Un commentaire plutôt qu'un. Enfin, un like, c'est bien, mais s'il y a le commentaire, c'est beaucoup mieux. Voilà.
Si vous aimez TK, mettez un cœur. Si vous n'aimez pas TK, mettez un cœur cassé en deux. Voilà. Commentez.
Je vais faire mal, go.
Deuxième conseil.
Deuxième conseil. Il faut faire des titres accrocheurs, mais pas putaclic. Et ça, c'est là des grosses différences. En gros, quand tu vas être mis en compétition par rapport à tous les autres créateurs de contenu dans la crypto-monnaie, enfin dans ton secteur d'activité, il faut que tu aies un titre qui soit accrocheur, parce qu'on pense toujours à la miniature en premier lieu, mais souvent, c'est le titre qui active le déclenchement du clic plus que la miniature. Mais en fait, tu dois avoir un titre qui est accrocheur, mais qui ne sera pas putaclic. Parce que si tu as un titre, par exemple, qui ne correspond pas du tout au sujet de ta vidéo, tu vas avoir un taux de rétention qui va être très
zéro,
mauvais. Et alors là, l'algorithme, il va se dire, OK, il a réussi à faire cliquer la personne, mais la personne n'est pas restée plus de 30 secondes ou quoi, parce que sûrement le sujet ne convenait pas. Et donc c'est ce qu'on dit très souvent, ils font des titres putaclic, non ? Un titre putaclic, c'est contre-productif pour un créateur de contenu.
Comment tu fais pour choisir tes titres de vidéo aujourd'hui ?
Moi, alors, je fais beaucoup par moi-même, beaucoup de têtes, etc. J'essaye de mettre beaucoup des mots-clés pour les fameux mots-clés. Par contre, actuellement, ça fait 2 semaines que j'utilise justement l'intelligence artificielle, non pas pour m'écrire le titre, mais par exemple, je lui propose 2 titres et je lui dis lequel, d'après toi, serait le meilleur pour une vidéo.
ChatGPT, j'imagine.
Gemini chez Google.
Gemini, oui, okay.
Voilà.
Ça va, il est bien, je ne connais pas trop.
Moi, je l'adore. C'est lui que j'utilise énormément. J'aime beaucoup sa façon de fonctionner. Et donc, voilà. Et alors, il dit, ah, je préfère ce titre-là parce que.
Bah oui, c'est Google pour YouTube. Bah oui,
ça marche bien.
Il connaît le truc. Ok.
Voilà.
On va aller voir Gemini. Titre long, court.
Pas plus de 74 caractères idéalement, et le top du top entre 50 et 60, c'est ce qui donne le meilleur. D'après justement les statistiques sur YouTube, c'est ça qui donne le mieux.
Ok. Exercice pratique. Là, on fait une interview de TK.
Ouais.
C'est quoi le titre ?
Donc, il faut un truc qui suscitera l'intérêt. Donc, il faut mot-clé Monsieur TK ou TK, hein, en tout cas, qui apparaît.
TK, t'es pas trop d'ailleurs avec prix pour The Kairi. C'est l'influenceur
très
décrié.
Au début, ça
l'était,
mais pour le coup, je le connaissais pas. Donc, en fait, moi, quand il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, tu repompes TK,
tu repompes
ça, TK. Mais je savais pas qui c'était, donc j'ai découvert. Donc, je dirais,
te préfère toi. Hein, mais...
je le connais pas, donc pour le coup. Donc ouais, je dirais, donc il faut la personne que tu interviews, donc là déjà c'est obligé, il doit y avoir mon nom, TK ou Monsieur TK, tu dois avoir quelque chose d'accrocheur, donc quelque chose soit sur le terme de la révélation, quelque chose d'unique qui va surprendre, tu vois, donc il faudra jouer avec des mots-clés justement.
Il a fait x 50 000 sur le Caspa, ou ça c'est putaclic.
Là ça le serait parce qu'après il y a des gens qui pourraient dire, bah non, il a fait que x 25 000, c'est pas x 50, donc tu vois.
Donc je mets, il a fait pour 25 000.
Non, mais par exemple, tu vois, c'est un exemple. Non, les chiffres, généralement, ça aide beaucoup, mais je trouve que c'est embêtant. Sauf si tu fais des tops, tu vois, top 5, top 10, là, à la limite, ça pourrait être. Il faut susciter l'intrigue, l'intérêt de la part du viewer, okay, sans rentrer dans le putaclic.
Ok, bon, on te soumettra un titre, voilà, et tu nous diras si tu le valides. Et dernier conseil ?
Dernier conseil, je dirais qu'il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, clairement. Ça se voit vraiment dans les créateurs de contenu, encore une fois, quels qu'ils soient, quand ils se forcent à parler d'un truc. Et ça se voit tellement qu'en fait, t'as pas envie de regarder la vidéo jusqu'au bout.
Ouais, il faut entraîner le viewer.
Il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit intéressant. Il faut que tu vois que la personne prend du plaisir à le faire et pas qu'il se sente forcé de le faire parce qu'il a décidé qu'aujourd'hui, il fallait faire une vidéo, quoi. C'est vraiment un conseil. Je pense que c'est même le conseil le plus important parce que si même tu valides tous les points avant, donc les interactions fortes, le bon titre et de ça, mais que les gens ils te regardent et qu'ils sont dégoûtés de voir ce que tu fais, bah ça sert à rien, quoi.
Donc tu nous disais un peu plus tôt que t'étais fini les conseils. tu nous disais un peu plus tôt que t'étais une niche dans une niche.
Ouais.
Est-ce que le fait d'avoir été chimiste et d'avoir toujours été dans des dans des choses un peu plus difficiles, enfin la chimie, je la considère un peu difficile. Est-ce que ça t'a pas aidé aussi à aller dans ce côté un peu difficile de la crypto qu'est le minage ?
Je pense que ça m'a aidé surtout au niveau de l'analyse de projet.
La compréhension,
le fonctionnement, l'analyse fondamentale.
T'en fais beaucoup de la fonda ?
Ah, de la fonda, je fais que ça. Moi, je fais pas d'analyse technique parce que je suis pas un trader, donc je sais pas analyser.
Tu sais pas me dire si Ishimoku va là et si va là et si ça monte comme ça, on va faire double top.
Je fais support résistance et les grands tendances. Je fais même pas, pour te dire, je fais même pas les drapeaux, tu sais, les retournements de tendance avec drapeau ascendant. Je fais pas. C'est pas mon domaine. Je suis pas trader. Par contre, l'analyse fondamentale, j'adore. Ouais. Analyser les tokenomics, la team.
Allez go. Comment là, je te pousse un projet. Qu'est-ce que tu vas regarder en premier?
Premièrement, donc déjà le projet, donc je regarde au niveau de son market cap où il se situe. Au niveau de la liquidité qu'il a, sur quelle plateforme il est disponible.
Pourquoi c'est intéressant le market cap ? Parce que plus c'est haut, moins tu vas faire de multiples, j'imagine.
Exactement. Donc typiquement, quelqu'un qui me dit ce projet-là, il est génial, et peut-être qu'il est génial, mais il a déjà un market cap de plusieurs milliards.
Il a déjà 100 millions.
C'est beaucoup moins intéressant. Enfin, pour moi, c'est beaucoup moins intéressant. Parce qu'une fois.
Toi, tu cherches des multiples.
Je cherche des multiples. Parce que sur les grosses capitalisations, typiquement Bitcoin et Ether, je suis déjà positionné. Ouais, donc je ne vais pas encore plus me positionner là-dessus. Donc le but, c'est d'aller chercher du multiple. Donc market cap,
première chose.
Market cap, clairement, et où il est disponible. Est-ce que ça va être disponible sur des petits exchanges, que de la DeFi? Parce que la DeFi, on le sait, actuellement, si on est sur un token ERC20, les frais vont être énormes. Donc ça veut dire que si tu viens mettre 100€ et que tu as 30€ de frais, c'est pas intéressant.
Déjà, c'est pas très bien.
Donc tu vas devoir aller mettre des plus grosses sommes pour que les frais soient limités. Donc déjà, ça, c'est important. Où est-ce que c'est disponible? Est-ce que c'est un coin ou un token? Pour moi, c'est très important. Okay. Un token, je rappelle, donc c'est une crypto-monnaie qui utilise une autre blockchain. Typiquement, un token ERC20 utilise la blockchain Ethereum.
L'USDT sur Ethereum.
Par exemple. Alors qu'un coin, il possède sa propre blockchain. Et il faut se mettre à la place d'un développeur. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir sa propre blockchain que d'avoir un token ERC20, en 10 minutes.
En 10 minutes, on l'a fait.
On peut faire le
TK mining tout de suite.
Voilà, on pourrait faire ça. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour moi, déjà, c'est pas plus intéressant, mais c'est un point supplémentaire d'avoir un coin plutôt qu'un token, parce qu'on se dit c'est pas encore un seul truc qui a été fait à la va-vite.
Les mecs, ils ont bossé derrière, il y a une infra, il y a un truc et tout. Ok, tu regardes le token,
je regarde donc où c'est disponible, combien il y a de volume, parce que par exemple, des fois, tu as des gens qui me disent, regarde ce projet, il est super, il est génial.
Il y a 20 000 balles de volume.
Il y a 20 000 balles de volume, tu arrives avec 5 000 balles, tu flingues le truc. Alors, c'est vrai que des fois, on se dit, 20 000€, ça peut représenter une grosse somme, c'est vrai. Quand tu as des gens qui investissent 50 ou 100 000 d'un coup, tu peux comprendre que là, c'est mort. Donc, avoir du volume, c'est important. L'historique aussi.
C'est quoi un bon volume ?
Un bon volume, je dirais que c'est à partir de 500 000, 1 million et quelques, parce que là, ça te permet quand même de rentrer. Sur 24 heures, oui, bien sûr. Ça te permet quand même de rentrer des bonnes liquidités sans être trop freiné, quoi.
Ok. Ensuite ?
Ensuite, l'historique de prix. Donc typiquement, si c'est un coin, par exemple, qui date de 2017, qui n'a pas connu son bull run et ça, et qui est ancien et qui ne se passe pas grand-chose.
Ouais, qui est en range.
Voilà, ça laisse beaucoup moins rêveur que, par exemple, des tout nouveaux projets qui débarquent et qui partent direct à la lune. Parce qu'actuellement, moi, je me mets toujours à la place de quelqu'un qui doit investir. Donc voilà, je suis quelqu'un qui ne connaît rien, je veux investir. Tu préfères investir dans un vieux truc qui est dans son range de la mort et qui peut-être est super intéressant et va peut-être pump ou quoi, ou tu préfères aller sur le truc qui est en train d'exploser, qui a le vent en poupe pour le moment, et te dire c'est là où va l'argent, donc je vais suivre là où va l'argent, quoi.
Donc toi, tu suis là où va l'argent?
Actuellement, je fais plus que ça.
Je résume pour l'instant: market cap,
disponibilité.
Donc ERC, déjà, j'imagine que ça va te faire un peu chier en ce moment, les ERC.
Alors, à l'heure actuelle, les ERC20, c'est un gros problème. Parce que, ou alors, tu arrives avec des grosses liquidités, parce que justement, tu dis.
Oui, tu peux te permettre de payer 30 balles. Parce que t'as 50K, on s'en fout, bien sûr.
C'est ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est un frein.
Ok. Tu regardes où en ce moment? Polygon, BSC, ah, Base peut-être?
Je regarde un peu tout. En fait, je regarde les narratives. Narratives, moi, je suis très, très fort dans la narrative d'épine IA, comme beaucoup de gens. Mais moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est justement la d'épine, c'est fournir de la puissance de calcul à un réseau. C'est ce que je fais depuis des années. Bah, avec
c'est quoi, on va en parler. Parlons-en un peu de la d'épine. Déjà, tu peux nous faire une petite explication de ce qu'est la d'épine aujourd'hui?
Très simplement, en fait, la d'épine, c'est fournir une ressource à un réseau de façon, entre guillemets, décentralisée, non pas par une entité énorme qui est connue.
Pas AWS,
pas Google et compagnie. Et en fait, la ressource, ça peut être... Très souvent, on parle de la puissance de calcul, hein, parce que c'est ce qui revient principalement au niveau de l'IA. Mais ça peut être également tout ce qui va être de l'espace de stockage de façon décentralisée, avec de l'espace de stockage qui va être moins cher justement que ton contrat chez Apple, par exemple, ton Apple Cloud ou autre. Ça peut être donc de l'espace de stockage, ça peut être de la puissance de calcul, ça peut être quoi encore? En fait, ça peut être tout ce que tu peux amener à un réseau de façon décentralisée.
Littéralement tout ce que peut proposer un AWS, quoi.
Exactement, ouais, okay. C'est ça.
Donc, quand tu te mets du côté AWS,
ouais.
C'est des concurrents d'AWS en soi, c'est tout ça. Ce qui va être d'épine. C'est quoi les projets d'épine en ce moment?
Qui ont le vent en poupe?
Qui ont le vent en poupe, tu regardes. Hein.
Ouais, bah,
c'est pas un conseil en investissement. Actuellement, s'il vous plaît, n'allez pas faire un all-in sur les projets.
Dans les gros, t'as Filecoin qui doit être le numéro 1.
Ah, le Filecoin, sérieux?
C'est fournir de l'espace de stockage, hein, c'est un des plus gros.
Mais oui, bah, lui par contre, c'est un ancien.
Ah, ça, oui, mais Filecoin, il est ancien, hein. 20 ou 21e au classement CMC. Sérieux, c'est un gros. Sinon, bah, t'as bien entendu AKH, AKT, qui est donc lui purement là-dedans. T'as LivePeer aussi, qui est pareil dans la fourniture de puissance de calcul. Render, qui est Render quand on parle de fournir la puissance de calcul, c'est Render. Il y en a plein, quoi. Il y en a plein.
Est-ce que tous ces projets, ils ont besoin d'avoir un token? Ou un coin plutôt.
Ça dépend en fait comment va être intégré leur système de paiement pour les autres projets. Donc moi par exemple dans la Dépine, il y en a un que je connais bien qui est le projet Flux que je connais bien et qui propose. Mais lui il propose son coin sert notamment de moyen de paiement. Donc lui pour le coup tu as la possibilité de payer directement en monnaie fiat, mais tu as des avantages et notamment des réductions si tu payes dans le token. Donc il y a un intérêt.
Et c'est leur blockchain aussi enfin.
C'est leur blockchain.
Et t'as les frais de transaction qui sont payés.
Voilà exactement. Donc t'as un intérêt à avoir ça. Est-ce qu'il y a absolument à chaque fois besoin d'un coin ou d'un token? Je pense pas, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent comme un moyen de paiement pour leur infrastructure.
Tu te rappelles qu'on avait fait le jeu, toi et moi, sur Twitch de Alex B. On avait fait un live, un jeu, et j'avais perdu sur cette question à la toute fin.
Je me souviens très bien.
Crypto qui commence par F. Franchement, j'avais géré tout le truc. Et là, j'ai dit crypto qui commence par F, qu'est-ce qu'il me veut et tout. Et là, il sort le flux. Je dis non.
C'était ça.
C'est sympathique ce jeu-là.
C'était très bien fait.
Qui suis-je?
Ethereum.
Le dernier Flux, il en a 15 000.
Et bah c'est Flux. En effet, c'était Flux. Et c'est ce que je disais.
Et du coup, MDR.
Et du coup, c'est Monsieur TK qui win du coup cette troisième édition de Crypto Master. Ah ouais,
et il est très bon, Alex.
Il
pour
est
ça.
Très sympa, Alex. Et le seul souci qu'il y a eu, je lui avais demandé de me renvoyer des trucs. Il y avait une merde. Il y a aucun enregistrement du truc.
Ah oui, il a fait en one shot.
Il avait oublié d'enregistrer. Ce sera dans nos souvenirs.
Nos bons souvenirs.
Dans nos bons souvenirs. C'était très sympathique. C'était franchement, très Alex. Je pense que c'est d'ailleurs Alex qui va monter la vidéo. Donc, voilà.
Un gros salut, coucou Alex. À toi.
Un gros coucou à toi. Et s'il te plaît, si tu le retrouves, je serais très curieux de la voir. Donc, tu vas regarder, on avait dit. C'était avant la team. On avait fait Market Cap.
On avait fait Market Cap. Ensuite, team, je le mets un peu après encore parce que ce que j'aime beaucoup, c'est de voir l'utilité réelle du projet.
Mais à partir de quand c'est une bonne utilité pour toi?
À partir du moment où ça va vraiment répondre à une demande réelle, et surtout, si, comme tu l'as dit, si le coin ou le token a un intérêt au sein même du projet. Par exemple, c'est un gros problème que je remarque, par exemple, sur plein de projets qui sont liés à la DeFi, notamment aux plateformes DeFi. En fait, la team a créé un token, enfin, généralement, c'est un token plus qu'un coin, parce qu'ils en ont besoin pour se financer, pour développer le truc. Mais à part, après, le mettre dans un pool de liquidité et toucher des rewards, ça ne sert à rien.
Tu es en train de dire le Uniswap, là?
Je pensais même pas à eux, non, je parlais à plein d'autres projets que j'ai étudiés parce que très souvent les gens reviennent avec ça.
C'est vrai que les protocoles DeFi, il y en a énormément.
Il y en a énormément et ils se battent tous pour la même chose et c'est très bien. Mais en fait, la plupart du temps, leur token, coin, ne sert à rien si ce n'est le mettre dans un pool de liquidité pour faire des échanges. Il y en a quelques-uns où tu as des réductions sur les frais de transfert, les frais de swap, ou des fois tu touches une portion des fees. Mais même ça, c'est encore très léger. Donc en gros, c'est plus un mécanisme pour lever des fonds et se financer. Qu'un système vraiment où tu vas avoir l'utilité du coin ou du token au sein même de l'écosystème. Quoi.
Okay. C'est quoi tes dernières recos là, que tu as fait? Voilà, on est vendredi, on est en fin de semaine là. Est-ce que cette semaine, tu as vu un token en particulier, un projet, tu te dis, tiens, ça peut être intéressant, j'aime bien ce truc-là.
J'ai beaucoup aimé, c'est un membre de la communauté qui me l'a partagé. Donc là, pour le coup, j'y suis vraiment pour rien. Mais après, j'ai fait l'étude derrière. C'est Soil, S-O-I-L, un projet. Donc j'ai commencé à le creuser, j'ai pas encore tout vu, mais au niveau des stats, tout est intéressant. Il a déjà commencé à pumper, malheureusement, et je n'étais pas dessus, donc ça a été plus vite. Mais ça allait, de ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu dessus, ça m'a hypé dessus, de fou. Et je me suis dit tout de suite, le gars qui a trouvé ça, voilà, le membre de la commu, pour le coup, je crois qu'il a eu vraiment le nez creux.
Alors, c'est pas un conseil d'investissement, encore
bien
une
sûr,
fois.
Bien sûr, bien sûr.
Mais je lisais hier un trade. Tu vois, c'est qui TX sur Twitter? Non. Bon, c'est un gars vraiment très DeFi, mais très sympathique. Et pareil, un vrai digger. Et il a mis un tweet en disant... moi, ce que je fais, et je pense que c'est très smart de faire ça, c'est quand je vois que je commence à m'intéresser à un coin avant de faire tout mon dig et tout, dans tous les cas, j'achète quand même 10 ou 20% de la somme que j'aurais voulu mettre au cas où il pump pendant le temps de la due deal, en fait. Tu vois. Et je me suis dit, ça, c'est un bon, c'est peut-être un bon move aussi à faire, parce que y a des fois, ça prend plusieurs jours, le temps, tu sais, tu bosses, t'as un truc, à côté, tu fais tes vidéos, tes trucs, tu te dis... Bon, on reviendra plus tard et hop, tu rates.
Je crois que je vais le faire.
Tu réouvres CMC et hop, il a fait 80% et toi, t'as plus que tes yeux pour pleurer.
C'est une super idée.
Un petit truc, 10%, ouais. Tu vois, mais c'est juste histoire de, voilà, je digue dessus, je mets 10% et voilà.
C'est vraiment une bonne idée. Je trouve, parce que comme tu dis, des fois, ça va très vite et c'est bête de louper des fois. Donc ouais, très très bonne idée.
Donc t'es dans l'écosystème depuis un bout de temps maintenant. T'en as vu venir, t'en as vu repartir, t'en as vu disparaître. T'as vu des scams, t'as vu des trucs ultra legit. T'as fait des erreurs, t'as bien fait de super moves, j'imagine. Mais je pense qu'il y a un point quand même qui est différent aussi avec toi, c'est que tu es le fait de que tu sois en Belgique et que tu sois moins, peut-être un peu moins baigné dans Paris. Comment tu vois aujourd'hui toute cette synergie qu'on arrive à avoir entre tous un peu créateurs de contenu, etc., francophones, européens sur la crypto?
C'est vrai que pour ça, c'est, comme je bouge quand même pas non plus énormément, bah c'est vrai qu'il y a plein de fois où j'ai l'impression, à mon niveau, hein, de rater, pas spécialement une opportunité, mais un moment qui aurait pu être
sympa.
Un
moment sympathique.
Voilà, parce que tu te dis, bah ouais, le problème, c'est que voilà, tu te dis, bah, il faut encore prendre le train, il faudrait encore prendre un hôtel, etc. etc. Ça, donc ça met, entre guillemets, vite beaucoup de contraintes pour le truc. Et donc, c'est sûr que si j'étais, à mon avis, si j'étais sur Paris, je ferais beaucoup plus de choses que ce que je fais à l'heure actuelle. Sachant qu'en plus, à l'heure actuelle, la crypto-monnaie en Belgique, c'est pas non plus la folie. On n'est pas du tout au même niveau que la France, au niveau...
dans l'avancée, dans le truc.
Au niveau des gens qui s'y intéressent, quoi. Je veux dire, comme tu dis, en France, tu vas à un endroit, tu trouveras forcément des gens qui s'y intéressent, bien et sûr. Ça. Nous, c'est encore relativement tabou et ça. Donc, c'est vrai que... Tu passes encore un peu pour un ovni, quoi.
Et pourtant, vous avez eu de Buckler qui en a fait beaucoup parler récemment. Enfin, il y a 2 ans maintenant.
Mais... Ouais, non. Pareil, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est vraiment un gars qui est super. Mais pareil, il a eu... Moi, je valide totalement son move, justement, de dire je prends une partie.
On rappelle ce que c'est son move. Il a décidé, je crois, pendant 6 mois ou 8 mois... Christophe de Buckler, qui était député belge.
C'est ça, il l'est toujours.
Il a décidé d'avoir son salaire pendant une période entre 6 mois et 1 an, que en Bitcoin. Hein,
c'est ça. Et en fait, le but, c'était vraiment de prouver aux gens que c'est pas une arnaque, etc. Et c'est vrai que quand il l'a annoncé, ça a fait grand bruit.
Ça a fait grand bruit dans toute l'Europe, ça.
Dans toute l'Europe, tout le monde en a parlé, mais au final... C'est dommage d'ailleurs pour lui, je trouve, mais ça n'a pas eu d'impact majeur, si ce n'est à ce moment-là. Quoi. Maintenant, c'est terminé, plus personne n'en parle. Quoi.
C'est redescendu un peu.
Exact.
Donc, toujours un plaisir de se croiser, bien sûr, TK. Je retourne sur la question juste avant, où on l'a vu, il y a énormément de drama, quand même, pour se le dire, entre créateurs de contenu. Tu te positionnes comment là-dessus? Tu te dis, oh, ils font chier avec leurs conneries, oh, parfois ils ont raison. Tu les vois pas et tu t'en fous, c'est quoi toi ton...
Ne pas les voir, c'est difficile de ne pas les voir. Mais
sur
Twitter,
c'est difficile de ne pas les voir.
C'est difficile, mais étonnamment, c'est vrai que je suis très peu touché, très peu concerné. C'est vrai que je les vois, donc j'assiste au truc. Est-ce que c'est le fait que je sois en Belgique et que donc potentiellement un peu plus loin du truc, ou alors accessoirement aussi, est-ce que je fais partie, entre guillemets, hein, des vieux, mais vieux pas spécialement dans le temps, dans la crypto, mais en fait... Beaucoup de dramas sont avec des personnes un peu plus jeunes aussi. Voilà, moi, j'approche les 35 ans. Me disputer sur Internet, ça m'est largement passé. Et je pense que la plupart des gens qui ont mon âge, voire plus, sont beaucoup moins justement dans le drama. Voilà, je pense que ça joue.
T'es pote avec beaucoup de youtubeurs, hein, qu'on se le dise. On fait des petites soirées, des trucs, etc. C'est qui, au début, les premières personnes que t'as rencontrées dans l'écosystème? J'imagine Owen, peut-être, Asher?
Bah, Flo.
Florent Gabriel.
Ouais.
Le blob.
Ouais.
Celui-là, là.
Celui-là.
Ouais, lui-même.
Ça fait 40 minutes qu'il est derrière le fauteuil pour cette blague.
Ok, c'était et donc il y a eu Flo qu'on salue.
Flo et Jus, forcément les deux.
Jus, vas-y, Jus,
sort. Les deux ans, c'est vrai. Ouais. Okay. En fait, comme on disait, le minage, c'est la niche dans la niche, et donc
il n'y en avait pas beaucoup.
Il n'y en avait pas beaucoup, et contrairement aussi à d'autres secteurs. Là, je parle même pas que de la crypto, mais en fait, plutôt que se dire on est des concurrents dans le domaine, on s'est tous
on
dit
est potes.
On est plutôt tous cette pote. Et en fait, quand tu regardes les créateurs de contenu sur le minage. C'est plus une grande famille que des mecs qui se disent oh, « moi j'ai l'exclusivité sur ça, moi je parle de ça, etc. » C'est vraiment une grande famille, on s'entend tous très bien.
C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je connais un peu moins bien que toi, mais je les connais un peu tous et on passe toujours des bons moments. Je passe notamment à Juju, à... comment il s'appelle ? La ferme du mineur, c'est quoi son
Le coin du mineur.
Le coin du mineur.
Ouais.
J'ai oublié son prénom.
Sébastien.
Sébastien, Jean-Jean, Maxime, Jean-Jean, Maxime. Bien sûr, qu'on salue tous, bien sûr. C'est vrai que vous êtes, comparé à d'autres niches dans la crypto... On vous voit toujours rigoler ensemble, prendre des bières, etc. Et il pourrait y avoir un moment où on se dit « Ah, on est un peu concurrents et tout, mais... »
On l'est indirectement parce qu'on parle deux fois de choses en commun, mais il n'y a jamais eu... En tout cas, je n'ai pas eu cette impression qu'il y ait eu une course à se dire...
On est en quelle année quand tu rencontres Florent, Julien, ou quand tu commences à rencontrer des gens vraiment au tout début ?
Ça devait être, ouais, peut-être pas au tout début, pas en 2016-2017, parce que là, j'étais encore vraiment tout seul, mais ça doit être 2018, quelque 2018, chose comme ça, quoi. Okay.
Ton premier event, tu t'en rappelles ?
Ça devait être un meet-up sur Liège, la ville où j'habite. Okay. Un meet-up où j'ai rencontré les premières personnes.
Crypto du coin.
Crypto du coin, vraiment en petit comité sympa autour d'un verre, discuter, etc., etc. Je me souviens que là, on était, à ce moment-là, c'était vraiment l'explosion aussi. On était mi-2017, donc là, ça commençait déjà à bien pumper au niveau des cryptos. Et je me souviens que je m'étais inscrit à la dernière minute et la salle était comble. Et je m'étais dit, waouh, ça va toujours être comme ça. Spoiler alerte, ça n'est pas tout le temps comme ça.
Ok. À quel moment, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, je vais arrêter mon travail donc de chimiste et je vais me lancer, je vais faire que ça, etc.
Donc c'était en septembre 2021. Donc la décision avait été prise avant, hein, mais j'ai clôturé mon job en septembre 2021. En fait, c'était tout simple. J'étais confronté à un choix qui était donc soit je continue à faire des vidéos sur YouTube au rythme que je fais, mais pour ça je suis obligé d'arrêter mon travail parce que pour le coup, je suis vraiment tout seul derrière YouTube. Enfin, pareil.
Montage, tout.
J'ai juste un graphiste qui me fait les miniatures. Tout le reste, c'est moi tout seul. Donc, je suis vraiment. C'est moi qui réponds sur les réseaux sociaux. C'est moi qui fais le montage, le tournage, l'écriture de mon script, etc., etc. Donc, en fait, je m'étais dit, soit si je veux garder ce.
Soit j'arrête, soit je. Voilà. Faut que j'y sois.
Ou alors, si je devais garder mon ancien travail, il fallait que je diminue complètement ma charge de travail. C'est-à-dire que c'était plus une vidéo par semaine, c'était plus une vidéo par mois, etc. Je ne pouvais pas faire autrement. Et en fait, je me suis vraiment dit, si je ne le fais pas, si je ne me lance pas à fond dans la crypto, toute ma vie, je me demanderais, et si je m'étais lancé, qu'est-ce que ça aurait donné ?
Tu as fait le choix.
Et j'ai fait le choix, et pour le moment, je ne le regrette pas.
Je reviens juste une minute en arrière, tu nous as parlé de ton Minia Maker. On a parlé juste avant de drama. Je crois que tu as compris de quoi je vais parler.
Oui.
Il y a eu une histoire.
Sans le vouloir, en plus.
C'est la première fois, franchement, je t'avais jamais vu dans un des soucis et tout. Et là, il y a l'histoire avec Julien Roman la Minia. C'était quoi l'histoire, Julien?
En fait, si tu veux, donc c'est simple. Le graphiste que j'ai est malade et ne peut pas me sortir la miniature à temps pour la vidéo. Donc moi, il faut savoir que je sors tous les jeudis à 17h une vidéo.
Une vidéo, quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive, le
malade,
jeudi.
Malade, pas malade, le jeudi, 17h.
Il y a une vidéo. Et le problème, j'ai pas de miniature. J'ai pas de miniature. Le problème, c'est que vraiment, au niveau de ma rétention d'audience, encore une fois, c'est vraiment devenu une institution pour les gens. À 17h, le jeudi, il y a la vidéo de TK. Donc, moi, je suis quasiment obligé de la sortir. Tu vois, je me dis, si je décale ou quoi, ça va être catastrophique. Compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Et donc, là, arrive le moment où je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, ok, j'ai pas de minia. Mais je dis, la vidéo, elle est bonne quand même. Le sujet est intéressant. Je vais quand même la sortir. Et mon gars qui fait la miniature me dit, t'inquiète pas, j'essaierai de te la faire demain ou après-demain. Donc, ça allait être une période de temps très courte avec une mauvaise miniature.
Okay.
Au début, j'essaye de faire un truc avec l'intelligence artificielle. Ça ne donne rien du tout. C'est dégueulasse. Ça ne va pas. Et donc, à un moment donné, je commence à scroller et à chercher des illustrations sur Google Images. Tu vois, vraiment en mode...
Ouais, en mode dernière minute,
voilà,
mais
dernière
il
minute,
le faut.
Il faut
là,
quelque chose, quoi. Et là, je trouve une miniature avec un fond noir, une fusée, et je crois qu'il y avait un multiplicateur et ça. Et ça tombe bien parce que mon sujet, c'était comment dénicher des pépites, etc. etc. Et en fait, cette miniature-là, je vois qu'elle provient, effectivement, je capte tout de suite qu'elle vient d'un site internet, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas qu'elle vient de chez Julien. Et elle est reprise par, je ne sais plus si c'est Bean Crypto ou quoi, enfin soit, ça vient d'un site.
Bean, yes.
C'est ça. Et je vois le truc, et je me dis, bon, C'est quoi, je vais la mettre, 24 heures, ça va passer. Ouais. Je mets ma miniature, le truc, la vidéo tourne bien, pas de problème.
Tu vas dormir, tu te réveilles le lendemain, c'est la guerre.
Je vais dormir, et il faut savoir que moi, je suis pas habitué au drama, vraiment.
Bien sûr, bah oui, jamais, donc... même moi, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible, TK, il se retrouve dans un drama.
Et là, je vois, effectivement, donc je vois que je suis commenté par, enfin, retweeté par Julien Roman, qui me dit, sympa le vol de miniature, etc. Et là, vraiment, sur le moment, je comprends pas, parce que pour moi, j'ai pas volé de miniature à Julien, puisque je l'ai pris sur le site.
Oui, ça va bien.
Et donc, je quand même, je regarde un peu, je scroll, etc., etc.
Et tu trouves là...
Et là, je vois le truc, et là, je vois, effectivement, il avait partagé et tout, et alors, pour le coup, il sort un pataquès, je sais pas comment le dire autrement, mais il sort une histoire de fou. Et moi, j'étais vraiment mal, parce que j'avais vraiment pas voulu lui
dire.
Bah oui,
t'es pas méchant, enfin, tu l'as pas fait méchamment.
Je l'ai pas fait méchamment, et en plus, je savais pas que c'était lui, parce qu'en fait, effectivement, lui, il avait la même miniature avec sa tête. Mais moi, j'avais, après, pour me défendre, entre guillemets, j'avais linké l'article de Bean que j'avais pris où il n'y avait pas sa tête. Donc, ce n'est pas moi qui ai effacé son visage. Je ne l'ai pas fait exprès. Et donc, je m'excuse vraiment, tu vois. Et je dis, je suis vraiment désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Dès que j'ai la bonne miniature, je change et tout. Mais le mal était fait. Et alors, en fait, après, j'ai été voir sur la vidéo. J'avais plein de commentaires négatifs. Donc,
ça t'avait envoyé automatiquement.
J'avais eu toute la communauté de Julien qui était venue, plein de gens qui étaient venus me dire ah, qu'est-ce que c'est que ça et ça.
Ça reste des commentaires forts. Enfin,
c'était le bon côté parce que, exact. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ça favorise le reach pour le coup.
Elle a bien marché la vidéo quand
même. Elle a super bien marché. Parce que de base, je crois que le sujet était intéressant. Et alors après, je me suis dit quand même, ok, je vais quand même aller voir la vidéo de Julien pour voir si à la limite. En fait, la vidéo n'a rien à voir. Moi, je parle justement de comment trouver des pépites en allant sur Bitcoin Talk, comment faire les recherches, donc un peu ce qu'on vient de discuter avant. Et sa vidéo, lui, n'a rien à voir. Il parle juste d'un truc comme ça. Ma vidéo fait genre quasiment 30 minutes, la sienne fait 11 minutes, enfin, je ne sais plus exactement. Mmh. C'est pas du tout le même sujet. Il y avait juste, à la limite, une miniature qui était en commun, et encore, pour le coup, voilà, elle est changée, la miniature, et je n'avais pas compris le drama et ça. Et le bon côté que j'ai eu quand même, c'est ça que j'étais... Donc au début, forcément, je me suis pris toute la vague de haine. Ça m'a fait... Comme je suis pas habitué, j'ai pas trop apprécié.
C'est la première fois que tu te prenais une vague de haine ?
Deuxième fois, je pense. Il y a une fois, j'ai eu un truc parce qu'il y a eu une mauvaise compréhension avec une personne qui avait fait une vidéo sur le minage, justement. Et j'avais dit un truc en humoristique, deuxième degré, ça avait été pris premier degré.
Ça,
et je m'étais fait harceler pour rien en plus. Et donc voilà, je l'avais pas bien vécu. Ça, c'était vraiment la première. Là, c'était la deuxième. Et comme j'avais vraiment pas voulu, tu vois, c'était pas, je m'étais pas dit génial, je vais le faire. Et ça, c'est vrai que ça m'a un peu embêté, mais au final, j'en garde. Voilà, je sais, maintenant, je fais beaucoup plus attention.
Vous êtes parlé avec Julien en DM après,
du tout. Le truc, c'est ce que j'aurais préféré. À la limite, il m'envoyait un message en DM. Il me disait, écoute,
ouais, frérot, tu te fous de ma gueule, c'est ma mini. Oui, voilà.
Mais ça a été affiché direct en public et ça a pris des proportions énormes. Mais comme je disais, le bon côté, c'est qu'après, il y a eu plein de gens qui ont repris quand même pour moi en disant, il l'a pas fait exprès, il avait pas envie, et ils ont été super sympas. Et voilà, mais. Pour le coup, je peux comprendre la réaction de Julien, mais pour le coup, voilà, il venait en DM, on s'arrangeait.
Et merci,
moi, je changeais, c'était terminé.
Tu mettais la photo d'une fleur pour deux heures, c'est drôle.
Voilà, c'était ça, parce que juste après, pour le coup, vraiment, ça a été changé. Et d'ailleurs, j'ai refait une com en disant, voilà, la miniature est changée, la vidéo est toujours bonne, c'est terminé.
Quoi. Allez, hop. Oui, effectivement, j'y ai repensé.
Mais tu fais bien.
C'était compliqué, mais je me suis dit, tu vois... Moi, littéralement, des dramas, je m'en prends deux par mois.
J'ai remarqué. Et t'es habitué au moins, moi pas.
Tu sais quoi ? On s'habitue jamais.
Je crois.
On s'habitue jamais. Être une grande gueule, on s'habitue jamais. allez, changement de sujet, fast forward. Je vais te demander ton avis sur des choses qui vont se passer, qui se sont déjà passées, qui existent, qui n'existent pas. Tu vas me dire ce que t'en penses rapidement. Le Lightning Network, par exemple.
J'en pense du bien. C'est indispensable pour Bitcoin, clairement.
Tu penses qu'on va aller, qu'on va réussir à le sécuriser de manière à ce que ce soit ultra clean, ultra propre et ultra scalable ? Donc scalable, on l'a déjà. Niveau sécurité, on n'y est pas encore, hein, qu'on se le dise. Donc là, je sais que voilà, je viens de créer un nouveau drama.
J'allais dire, tu vas te prendre tous les maxis.
T'inquiète aussi. Salut les maxis, je vous embrasse. Tu penses qu'on va y arriver ?
Je pense qu'à terme, oui. Je pense que c'est évident.
Est-ce que ça peut devenir une solution vraiment pour le grand public ?
Si on améliore l'interface utilisateur justement pour les wallets,
c'est vrai que c'est
tout,
un peu compliqué encore les wallets. Hein.
Quand on est dedans, ça semble évident, mais pour moi, voilà, tu montres ça à ma mère, elle regarde, il y a un QR code et tout ça, c'est loupé. Quoi.
T'as des nodes Lightning chez toi ?
J'en ai un.
T'as beaucoup de nodes chez toi, non ? J'imagine.
Alors chez moi,
chez
même,
toi, peut-être pas.
Pas directement, parce que effectivement, il faut avoir une bonne connexion internet et ça, ce que j'ai pas parce que j'habite à la campagne. Mais par contre, oui, des nodes, j'en possède. Des différents, je dois en avoir une dizaine de différents et au total, je dois en avoir une trentaine.
C'est quoi les nodes favoris aujourd'hui ?
que j'ai la question.
Que tu n'as pas les favoris, ceux que tu as et que tu es content d'avoir. Flux, j'imagine.
Flux, déjà. Bien entendu. Presearch. J'avais il n'y a pas longtemps un streamer data, mais j'y reviendrai là-dessus parce que ça n'a pas fonctionné. Mais
c'est quoi un streamer data?
Streamer data, c'est un projet qui s'appelle streamer data, mais voilà, c'est un projet. Et donc, j'avais des nodes, ils ont arrêté, ils ont changé à FastSwap. J'ai quoi encore en nodes qui tournent? Attends, je réfléchis. Morpheus Network, que j'aime beaucoup. Je réfléchis.
Qu'est-ce qui fait que t'aimes un node ou que t'aimes pas la facilité de la mettre en place de...
C'est le projet avant tout. Hein. C'est le projet. En fait, un projet de crypto-monnaie peut proposer des nodes. Si le projet m'intéresse pas, j'irai quand même pas dedans. C'est vraiment. Okay. Si le projet m'intéresse, tant mieux. Et si en plus il a soit du minage, soit des nodes, c'est un plus quoi.
C'est un banger. Ok. T'as fait un tweet la semaine dernière où t'avais lancé un pool dans un...
Streamer Data, c'est ça.
C'était Streamer Data, c'est ça. Tu peux nous réexpliquer l'histoire rapidement?
Donc en fait, si tu veux, Streamer Data, au départ, il fonctionnait vraiment sur un type de masternode. Donc ça veut dire chacun avait son node chez soi, tout était bien gardé. Ils ont décidé de changer le système par un node vraiment en staking pur, donc un peu comme on retrouve chez Atom.
Ethereum,
par
exemple.
Ethereum, c'est encore des nodes aussi, parce qu'il faut avoir les 32 Ethers.
Okay.
T'as le liquide et tout ça. Mais donc vraiment comme Atom, tu peux déléguer un node validateur. Et donc je me dis, tiens, je vais essayer de monter le node validateur. Et comme ça, je pourrais avoir un node pour la communauté et les gens pourront venir déléguer sur mon node, vraiment comme un truc. Donc avant, c'était chacun pour soi, là, c'était un truc collectif.
Okay.
Donc je me dis, je vais faire ça. Je monte le node, tout fonctionne bien pendant plusieurs heures, ça fonctionne. Je me dis, bon, ça fonctionne, grande communication sur les réseaux, je fais un truc communautaire, c'est super bien génial, etc., etc. Sauf que ben, ça avait bien fonctionné, puis à un moment donné, ça commence à planter. Et sauf que, comme sur Ethereum, sur Streamer Data, ils ont mis du slashing, donc une pénalité quand ton node est orné. Sauf que moi, je m'attendais à avoir un slashing raisonnable.
Ouais, il a piqué.
Ah, écoute, le premier slash que je me prends, je perds quasiment 40 euros, l'équivalent de 40 euros de Streamer Data.
Ok.
Je relance le node, je me reprends 20 balles quasiment dans la folie, directement juste derrière. Et puis, je vais relancer 2-3 fois.
C'est combien le pool total du node? Enfin, c'est quoi? C'est 200 balles, 500 balles?
En fait, il te faut au minimum, pour avoir le node, 5000 Streamer Data, un peu plus, 5-6 000. Donc, je ne sais pas combien ça représente, mais ce n'est pas très cher à l'heure actuelle.
Mais ça fait chier, 40 euros sur...
Oui, et en fait, tu te fais slasher, et en fait, j'arrêtais pas de me faire slasher. Et donc, je voyais, en plus, parce qu'en fait, on était doublement perdant, parce que le slashing, c'est que le node opérateur qui se le prend. Donc, ça, c'est moi, tant mieux, parce que je voulais pas impacter les gens.
C'est-à-dire que ton node ne marche pas, donc les gens...
Les gens ne gagnent pas, donc eux ils gagnent pas d'argent,
ils perdent du temps,
et moi je perds de l'argent, et en plus je perds du temps aussi parce que je gagne pas de reward. Donc en fait à un moment donné j'ai mis les mains dans le cambouis pendant des heures et des heures et des heures, les gens n'imaginent pas, j'ai passé ma soirée, à un moment donné j'avais prévu de passer une soirée tranquille devant une petite série et tout, j'ai passé ma soirée dans les lignes de commande et tout, pour relancer le node, ça ne fonctionnait pas, ça ne tenait pas, etc., etc. Et à un moment donné, le lendemain, je me suis dit, ça me faisait mal au cœur parce que j'avais annoncé tout le jour avant en grande pompe, je devais annoncer le retrait en disant aux gens, écoutez, je n'y arrive pas pour le moment. Plutôt que de vous faire attendre et perdre du temps pour rien, allez déléguer chez quelqu'un d'autre et le jour où j'aurai quelque chose de stable et fonctionnel, je referai tout le monde revenir. Mais là, je ne pouvais pas le faire.
Tu as commencé, j'imagine, avec le Proof of Work.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que tu étais un fan du Proof of Work?
En fait,
Tu l'es?
Je suis toujours fan du Proof of Work. Je trouve que à l'heure actuelle, c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée pour assurer le fonctionnement et la sécurité d'une blockchain.
Qu'est-ce que tu reproches au Proof of Stake?
La centralisation. Et le problème que à partir du moment où quelqu'un a le contrôle du réseau, tu peux plus le dégager. Puisque par exemple quelqu'un qui détiendrait le maximum par exemple sur Ethereum, il ferait que gagner de plus en plus d'Ether, il serait de plus en plus riche. Tu pourrais plus l'enlever. Alors que des machines de minage, on peut toujours en rajouter.
Yes, ok.
C'est compliqué, mais on peut le faire.
Ça se fait. Comment t'étais quand tu le savais qu'Ethereum passerait un jour en Proof of Stake, mais on le savait tous, mais à chaque fois c'était retardé. Qu'on se le dise, Ethereum. Ça fait que 4 ans, mais un peu moins, qu'ils sont à jour dans leur mise à jour. Tu vois. C'est avant, c'était des trucs. Et là, depuis quelques années, ils sont comme ça. Ils ont le jour, le bloc, ils le savent et tout. Comment t'étais lors du merge, par exemple, le 15
On l'a vécu en direct parce qu'on a fait un live exprès avec Jean-Jean et ça. On a fait un live exprès pour voir le dernier bloc validé. Et on avait nos mineurs, nous, qui tournaient. Donc, on voyait vraiment les blocs passer et ça. On le savait, donc il n'y avait pas de surprise.
Un petit pic au cœur quand même.
Un petit pic au cœur parce que je pense que je pense quand même que Ethereum était très bien en Proof of Work. Je comprends.
Tu regrettes?
Je regrette pour ce qu'il est en train de devenir, ouais. Je pense qu'il aurait eu tout à y gagner à rester en Proof of Work, même si j'étais pas mineur de crypto-monnaie. Je veux dire, j'aurais même jamais miné d'Ether. Je pense que ça aurait été mieux pour lui de rester en Proof of Work.
Tu dis qu'il est en train de perdre des choses, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais reprocher par exemple à Ethereum? Au Proof of Stake
Clairement, la centralisation.
C'est vraiment la centralisation qui te fait mal.
Le fait que ce soit extrêmement centralisé, notamment chez AWS, donc au final, Ethereum, c'est quasiment un réseau américain maintenant, puisque la La plupart des nodes sont des nodes américains et sont chez AWS. Le fait effectivement que, c'est tant mieux, hein, les riches sont de plus en plus riches, mais donc ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut plus... Ça s'arrêtera jamais. Donc voilà, le réseau, il est parti comme il est et on ne pourra plus vraiment le changer, si ce n'est avec une énorme mise à jour, mais qui ne sera jamais faite, quoi.
Tu dis qu'on peut rajouter des mineurs. Sur Ethereum, on ne peut pas rajouter des nodes alors à ce moment-là pour essayer de défaire le...
Ben oui, mais le problème, c'est que pour ça, tu dois acheter des Ethers et des Ethers qui appartiennent au gars qui est le plus riche. Donc il faudrait que le gars le plus riche veuille bien vendre ses Ethers alors que c'est lui qui a la main sur le réseau.
Combien d'Ether sont créés aujourd'hui à chaque validation ? T'as une idée, non ?
Je sais pas.
J'ai pas l'idée non plus. Ok, donc ce serait plus difficile, malgré le fait qu'aujourd'hui, si Bitcoin a le contrôle du réseau, il faudrait plus d'électricité. Il n'y a pas une chose comme ça où il faut plus d'électricité qu'il existe aujourd'hui sur Terre pour avoir 51% du réseau,
Premièrement, les machines ne sont pas disponibles, donc tu voudrais même le faire. À l'heure actuelle, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas les machines. Il faudrait vraiment avoir un conglomérat de mineurs qui se mettraient d'accord. Et encore une fois, ce serait contre-productif.
Parce que les nodes diraient non, de toute façon, à un moment,
ils couperaient tout. C'est quasiment impossible. En fait, il y a peut-être 5 ou 10 ans, c'était possible effectivement de prendre le contrôle de Bitcoin. À l'heure actuelle, c'est plus possible.
Est-ce que Bitcoin est trop sécurisé pour toi ?
Qu'est-ce que tu appelles trop sécurisé ? Il y a trop de machines sur le réseau ?
Est-ce que si demain je coupe la moitié du hash rate, Bitcoin est toujours aussi imprenable ?
Pour moi, il est toujours aussi imprenable, même si c'est mieux de l'avoir avec le double de puissance de minage. Mais sinon, oui, je pense que ça ne changerait pas grand-chose, vu les terrages qu'il y a à l'heure actuelle sur Bitcoin.
Ok. Sur le long terme, est-ce qu'on pourrait imaginer un Bitcoin en proof of useful work ? Là, c'est moi qui te mets dans la sauce avec les max.
Ouais, non, mais en fait, en soi, je sais pas. Alors, techniquement possible, oui, techniquement possible, ça l'est. Après,
Est-ce que ce serait bien ?
Je pense pas. Parce que
pourtant, c'est ton
vraiment, vraiment. Autant je trouve que tout ce qui est le fait de rendre la puissance de calcul utile à quelque chose, je trouve que c'est très intéressant. Mais autant sur Bitcoin, non. Parce que vraiment, Bitcoin, pour moi, c'est un joyau rare qui a été créé comme ça et justement il faut pas l'altérer,
il faut pas le toucher.
Moi je suis par exemple indirectement tout ce qui est, tu sais, maintenant on parle beaucoup des layers 2 sur Bitcoin, tout ce qui est les ordinals, pour le coup je suis pas Bitcoin maxi, mais là je suis plutôt d'accord avec eux sur le fait que Bitcoin il est très bien comme il est.
Faites ça sur des layers,
voilà, aussi, faites ça ailleurs, quoi.
Ok, on en a parlé un petit peu aujourd'hui de ton un peu plus tôt, comment tu trouvais des projets, etc. Tu nous as parlé de Bitcoin Talk.
Ouais,
je pense que ça, si je dis pas de bêtises, Bitcoin Talk a une place assez importante pour toi dans tes digs, etc. Comment t'interagis avec ça ?
Ah, clairement, Bitcoin Talk, c'est la bible de... Ça devrait, pardon, être plutôt la bible de tout investisseur dans la crypto-monnaie, puisque en fait, Bitcoin Talk, c'est le forum historique où Satoshi Nakamoto a notamment présenté Bitcoin. Mais en fait, tout projet, un tant soit peu sérieux, hein, donc pas un truc qui va à rug pull au bout d'une semaine, se présente sur Bitcoin Talk. Tu retrouves tout.
C'est le Sénat.
C'est super drôle. Tu vois les tout premiers posts de Vitalik Buterin en 2014, je pense.
Qui parle d'Ether.
Et qu'à l'époque, tout le monde dit qu'est-ce que c'est que ce truc, on n'y croit pas et ça. Il y a les premiers posts de la team Monero aussi, où tu retrouves justement la team Monero qui explique ce que c'est Monero, comment ils veulent le faire et ça. Donc en fait, à partir du moment où tu as un projet, un tant soit peu sérieux, il doit avoir sa présentation sur Bitcoin Talk.
Même si c'est sur Polygon, sur Avalanche, etc. Tout le monde y va. Et les gens le font quand même. Il y a beaucoup de projets qui se présentent sur Bitcoin Talk.
Il y a énormément de projets qui se présentent.
Ils
ne
se prennent pas des grosses tartes par les...
Ah si, parce que justement...
Tu sais que tu vas te prendre une tarte sur Bitcoin Talk.
Tu sais que si tu présentes vraiment un projet qui ne tient pas la route, comme tu as des vrais old guys sur le truc qui sont là depuis le début, tu as des gars qui vont te démonter, qui vont dire ça c'est red flag, ça c'est un problème, ça va pas. Mais accessoirement, si, je pars du principe que ton projet est legit, ça peut être aussi un sacré boost pour toi parce que tu dis ok, ça il faut qu'on le retravaille, ça il faudrait l'améliorer, ça il faudrait le changer.
Je t'ai jamais... Tu parles sur Bitcoin Talk ou juste tu regardes ?
Juste viewer. Okay. J'ai un compte, mais je l'utilise. Je crois que j'ai commenté 2-3 trucs, mais très très peu.
Moi, j'y vais souvent quand je dois faire des recherches pour des vidéos, des trucs, etc. Et oui, effectivement, il pourrait améliorer l'UX.
Ça,
s'il vous plaît, faites quelque chose pour l'UX.
C'était à la mode en 2010.
Même faire une search, search, c'est compliqué. Oh là là.
Mais c'est pas très sexy. Hein.
Très pratique quand même. Aujourd'hui, comment tu construis un portfolio ? Ton portfolio idéal, disons, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est
Bitcoin, clairement.
Bitcoin majorité ? Bitcoin, 50% et plus ?
50% et plus, ouais. Okay. J'ai fait la grosse erreur pendant des années de ne pas avoir de Bitcoin parce que, comme beaucoup, je disais... Mais
c'est déjà trop cher.
C'est trop cher, ça ne va pas faire de gros multiples ni rien. Mais accessoirement, quand le marché se casse la figure, c'est aussi lui qui perd le moins.
T'es bien content d'être sur Bitcoin.
Donc, Bitcoin, clairement. Ethereum, j'en ai toujours. J'en ai, ça représente une part de mon portefeuille, mais clairement...
En pourcentage, tu pourrais nous dire à peu près ?
Ça doit être entre 15 ou 20%, je crois.
15 ou 20%, ok.
Mais je me pose la réflexion déjà depuis un moment et j'en discute beaucoup avec les abonnés, enfin avec les gens qui me suivent, de est-ce que je les garde ou est-ce que je les liquide complètement.
Tu serais prêt à liquider tes Ethers là,
ouais, clairement. Clairement, okay. À l'heure d'aujourd'hui, je ne l'ai pas fait parce que justement, je le dis toujours, Ethereum, son gros avantage à l'heure actuelle, c'est qu'il a une communauté de dingue et que donc, ça, c'est pas pour rien qu'il est la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Donc, c'est pour ça que je ne le liquide pas. Mais honnêtement, si Ethereum était à la 4e, 5e place, je pense que j'aurais tout liquidé.
Ok.
Donc ça, et alors beaucoup maintenant, moi je suis sur trois grosses narratives qui semblent évidentes maintenant, mais je suis dessus.
Qui n'était pas il y a un an et demi, deux ans.
Donc qui est notamment la Dépine et l'IA, ça c'est clairement pour moi c'est la plus grosse des narratives à l'heure actuelle. Donc tout ce qui est fournir de la puissance aux intelligences artificielles et directement les intelligences artificielles. Tout ce qui va être les RWA, la tokenisation d'actifs du monde réel. Alors ça peut être tout, hein. Donc les RWA ça peut être aussi bien les actions, les entreprises, de l'immobilier, tout.
Tu regardes tout ?
Je regarde tout, je m'y intéresse.
Alors j'en profite, l'interview est sponsorisée par Realty. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes, Realty ?
Typiquement oui. Okay. Typiquement oui, immobilier tokenisé, clairement ça me parle. Ça me parle puisque...
C'est pratique.
C'est pratique puisque on a beaucoup ce problème de ne pas avoir des centaines de milliers d'euros à investir dans un bien immobilier pour le mettre en location parce que c'est un...
Et les papiers, et les notaires, bien et sûr. Le prêt de la banque, et le remboursement, bien sûr.
Et donc Realty, c'est, pour le coup, c'est vraiment le cas pratique où tu peux investir une beaucoup plus
petite
somme.
Je t'en voudrais pas si tu me dis non, il n'y a pas de souci. T'es utilisateur, par exemple, de Realty ?
Oui.
Ok. C'est vrai, hein ?
Très petit peu. Non, pour être honnête, oui. Très peu.
Il n'y a pas de souci, tu me dis non, il n'y a aucun souci. Ok, donc RWA, Dépine.
Et alors, moi, j'ai pris le pari, qui est un pari assez fou, de miser sur ce qui est la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement, la traçabilité, le suivi, etc.
VeChain.
Quoi ?
VeChain.
VeChain, je l'ai eu pendant des années, de 2017
à... Je le record, je ne veux pas le deb.
VeChain, mais moi, je suis sur Morpheus Network, qui est un concurrent,
ouais,
pour le coup.
Mais qui a bien marché, quand même.
Qui a très bien marché. Mais pour le coup, c'est pareil. J'y crois beaucoup moins que les deux autres. Enfin, je crois que le multiplicateur sera beaucoup plus faible, mais ça me parle à mort.
Oui, ça reste... Tu tombes pas amoureux de tes cryptos, parfois ?
De temps en temps, oui. Mais j'essaye maintenant, ce que je ne faisais pas avant, j'essaye vraiment de me détacher.
La vraie question que tout le monde veut savoir, c'est combien représente le flux dans ton portefeuille ?
Une trop grosse partie.
C'est combien en pourcentage ?
Beaucoup, beaucoup. Honnêtement, si Ethereum est à 15%, quasiment tout le reste. Donc s'il y a 50% de Bitcoin, 15% d'Ether...
T'as genre 30% en flux ?
Ah ouais.
Minimum, ouais. Ouais. Okay. Est-ce que là, on peut pas dire que t'es tombé amoureux de tes cryptos ?
Celui-là, oui, clairement. Clairement, clairement, clairement. Je le sais et je m'en veux, entre guillemets. Mais c'est un peu le problème quand tu découvres un projet depuis le départ. Vraiment, comme je dis, moi, j'ai fait partie des 1000 premiers blocs et que tu le suis depuis toutes ces années avec les hauts, les bas, etc. C'est vrai que théoriquement, tu dois pas t'y attacher, mais c'est difficile.
Tu t'y attaches, bien sûr. C'est vrai que moi aussi, en vrai, à chaque fois, je vends du Bitcoin. Tu vois, là c'est la leçon que j'ai appris du dernier bull, c'est apprends à vendre. Donc là, j'ai vendu du Bitcoin, j'ai vendu à 65 000, à 70, etc. Mais à chaque fois, j'ai quand même ce petit pincement au cœur de « Mais non, pourquoi tu me laisses ?»
Pourquoi ?
Reste, j'étais bien chez toi. Surtout que tu sais, aujourd'hui, enfin, moi, je suis un peu chiant comme ça, mais je fais ultra attention. Tous mes fonds, quasiment, ils sont que sur Ledger, avec des multisigs, etc. Et donc sur Ledger, tu sais, quand tu fais des transactions en Bitcoin, ou même je pense, sur tous les hot wallets, tu peux choisir... quel coin tu veux utiliser en premier, les plus récents, les plus anciens étant les plus chers à bouger, etc. Mais et je fais toujours les plus récents, comme ça je garde
les vieux, bah ouais.
Mais à un moment, ça va me coûter cher de laisser de faire bouger cela. On arrive sur la fin de l'interview. Avant, j'ai une petite question parce qu'on en a parlé rapidement sur tout ce qui est intelligence artificielle, etc. C'est quoi ta vision de l'avenir sur l'intelligence artificielle, rapidement, hein. Je sais qu'on pourrait repasser une heure dessus.
Je pense que c'est génial, ça prend de plus en plus de place parce que ça devient de plus en plus user-friendly. Il y a de plus en plus d'applications, comme tu disais. Enfin, voilà, moi, je l'utilise par exemple pour les titres, comparer les titres de mes vidéos. Et je pense que ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, je ne pense pas que ce sera un phénomène de mode. Je pense que ça va peut-être un peu baisser aussi, parce que là, c'est un peu la folie en ce moment, ça va peut-être un peu baisser, mais je pense que c'est un mouvement qui va partir pour durer, quoi.
Ok, ça ne te fait pas un peu peur ?
Non, pas spécialement. Non. Pas à l'heure actuelle, en tout cas.
Très clair. On passe au jeu.
C'est parti.
Et on se retrouve en direct pour les jeux de l'interview. Tu as effectivement deux petites pancartes que je te laisse présenter à la caméra. Un pour et un contre. Je pense que tu as compris le jeu.
Pour.
Voilà. Est-ce que tu es pour les jeux ou est-ce que tu es contre
pour le jeu.
Pour les jeux. On va commencer directement. Le Proof of Stake.
Proof of Stake de manière générale.
Proof of Stake. Pour. Les layers 2 sur Bitcoin. les jeunes qui se lancent sur YouTube et en pensent faire un métier direct.
Ils se lancent juste pour ça ?
Ils se lancent parce qu'ils veulent. Okay. Ils disent je veux être youtubeur, je veux être riche, etc. Tous les travers qu'on peut. Enfin, tous les travers, toutes les limites qu'il peut y avoir. Partir vivre à Dubaï. Partir miner à Dubaï. Au Canada. En Islande. Ok. Blob. Pour.
Ouais.
C'est facile parce qu'il est là.
J'aurais dit pour quand même aussi.
Non, moi je parlais des blobs sur Ethereum.
Ah. Con. Non, j'ai bien compris.
Les NFT.
Pour.
Les NFT de singes.
Oh, contre.
Les shitcoins.
Pour, parce que c'est rigolo.
Les shitcoins de chiens. Pour. Les shitcoins de Shiba. Je te pose maintenant des questions. Tu vas me répondre oui ou non.
Ok.
Comme tu le sens. As-tu déjà été en burn-out à cause du marché ?
Oui.
Est-ce que le proof of work est une meilleure solution que le proof of stake ?
Oui.
Est-ce que le halving va renforcer la sécurité de Bitcoin ?
Non.
Est-ce que la spéculation est un danger pour le secteur ?
Non.
L'intelligence artificielle se développe-t-elle trop vite ?
Non.
Utilises-tu encore les exchanges centralisés ?
Oui.
Crois-tu à l'analyse technique ?
Oui.
As-tu le track avant de faire des conférences ?
Non.
As-tu le track quand tu ouvres ta caméra pour t'enregistrer ?
Non, pas du tout.
Est-ce que le Bitcoin passera un jour en proof of stake ?
Non.
La crypto la plus surcotée est ?
Je vais me faire des ennemis.
Tu dois répondre.
XRP, Ripple ? Je vais me faire des ennemis, mais tant pis, j'assume. J'aurais pu dire Cardano.
Tu veux te faire deux fois plus d'ennemis. Ma plus grosse erreur en crypto est
De ne pas avoir clairement suffisamment vendu au bull run, au précédent bull run. J'ai beaucoup trop holdé, j'aurais dû vendre beaucoup plus.
Kevin, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, j'ai passé un super moment. Je pense qu'on aurait pu faire une heure de plus là.
Je pense facile.
C'est pas grave, on va enchaîner après, de toute façon, on va en discuter. Merci à toi, merci d'être venu, merci d'avoir été aussi sympathique comme ça pendant l'interview. C'est toujours un plaisir de se croiser, de toute façon, qu'on se le dise. C'était Kevin et Benjamin pour le Crypto Daily. Si vous êtes encore là, s'il vous plaît, abonnez-vous. Alors, allez, il va vous le dire.
Abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre un commentaire pour une interaction forte.
Oui, voilà, n'oubliez pas la question. Si vous aimez Monsieur TK, vous mettez un cœur. Si vous ne l'aimez pas, bah, vous mettez un doigt d'honneur, ce que vous voulez. On sait tous, de toute façon, en vrai, il y a beaucoup de gens qui t'aiment pas, genre vraiment, tu t'envoies des haters comme ça tous les...
Je pense qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais...
Oui, mais franchement...
Je connais peu.
Ouais, voilà, c'est ça.
Même les haters, je les aime bien.
Voilà, qu'est-ce que c'est mignon, mais voilà. Mais c'est... Même les haters, il va boire des bières avec vous, qu'est-ce que vous voulez
vrai,
de plus.
C'est vrai.
Donc en tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. Abonnez-vous au Crypto Daily, abonnez-vous à Monsieur T4 si vous voulez retrouver ce qu'il fait, c'est super, c'est sur YouTube, tous les jeudis à 17h, les liens exactement sont en description aussi. Et voilà, c'était Benjamin et Monsieur TK pour le Crypto Daily. Et moi, je vous dis à très vite.
Ciao tout le monde.